Et qu'on va, on va commencer en priant, puis on va continuer ce qu'on avait arrêté la semaine dernière. Hier, on va te remercier pour cette belle journée. Merci pour la belle température dehors, le soleil, ça réjouit nos cœurs, Seigneur. Et je te remercie pour ce temps aussi qu'on peut prendre en Église. Merci pour ton Église, merci pour mes frères, mes sœurs qui sont ici. Merci pour les gens qui sont fidèles de se réunir ensemble et d'avancer ensemble à ton œuvre, Seigneur. Et je veux me rappeler ce matin de prier pour ton serviteur Yannick, sa famille, comme il nous l'a demandé, Seigneur, et je te prie de continuer à fortifier sa foi, de le rencontrer d'une façon toute spéciale dans ce temps de pause qu'il a pris. Bénis-le, bénis sa famille, Seigneur, et qu'il puisse nous revenir davantage motivé à ton œuvre, davantage soumis à ton esprit. Merci pour ta direction dans sa vie et ta direction pour cette Église. Amen. Ça l'avance déjà bien le cours. Au mois de juin, il n'y a pas d'école du dimanche, ceux qui ne saviez pas. Ça va être encore un temps de prière. Tout le mois de juin, de ce que j'ai compris, c'est que j'assume que même la première fin de semaine, je pense que c'est le 2 ou 3 juin, là, je ne suis plus trop sûr. C'est qu'en théorie, il reste le mois de mai. Sauf que moi, je ne serai pas là un des dimanches. Il nous resterait 3 cours ensemble. Ça va bien tomber. Là, c'est à peu près ça comme matériel qui reste parce que je ne pensais pas dépasser le chapitre 11. Je pensais me rendre à la tour de Babel puis même jusqu'au début, jusqu'à la mention d'Abraham, dans le fond. Donc, juste avant que le chapitre 12 commence.
Et après l'été, est-ce que tu...
Non, mon engagement pour cette année, c'était vraiment d'enseigner de 1 à 11. C'est que ça, c'était un cours. Là, c'est la première fois d'ailleurs que je m'en rendais si loin pour savoir pas si on allait pouvoir couvrir une année. Là, ça a quand même bien été. C'est que c'est ça pour cette année. Pour la session d'automne, je sais pas encore, ça sera discuté là si. Ça va être à discuter avec les anciens, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, il resterait 3 dimanches. Donc, dimanche prochain, le dimanche d'après, je ne serai pas là parce que je m'en vais à la pêche. Je vais manquer la fin de semaine. La semaine prochaine, l'autre. À l'ouverture. Non, je m'amène mes gars de la compagnie. On sort au parc du Mont-Tremblant, c'est qu'on s'en va juste à l'ouverture. Je suis bien excité de ça. On s'en va à la truite mouchetée. Je ne serai pas là, cette fin de semaine-là. Ouais, c'est ça, je me suis fait. Non, ça va être bien, en tout cas. Ceux qui veulent parler de pêche après le cours, là, je pourrais vous dire que c'est une belle place à aller. C'est ça, donc il va rester la semaine prochaine, puis dans 3 semaines d'ici. Enfin, mon frère va être là aussi. On amènerait des photos. Je vais vous montrer des photos la semaine prochaine. On va amener des photos à l'appui. C'est ça, exactement. En assumant que la fin de semaine après le 26, qu'il n'y a plus d'école dimanche, moi j'ai assumé que ça a commencé au mois de juin. C'est que la semaine dernière, vous pouvez tourner dans Genèse 10. On était dans la table des nations. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello. Fait que mes deux frères vont être là justement pour la pêche. Fait qu'on amènera des photos à l'appui. Fait que la semaine dernière, on avait commencé en chapitre 10, donc la table des nations. Ça s'appelle comme ça. C'est un des seuls documents qu'on a, là, même si on n'a pas de document à l'extérieur de la Bible qui est aussi complet sur sur le développement des nations, le développement primitif des nations depuis le déluge. Là. Puis. Je crois que c'est assez. Je crois que le chapitre nous a été donné. Probablement que c'est 7 qui l'a compilé, comme on l'a regardé ensemble. Puis vraiment, c'est assez exhaustif. C'est-à-dire que pas mal toutes les nations anciennes, puis toutes les nations qui ont eu de l'importance, puis même tous les peuples d'aujourd'hui peuvent retrouver leur origine dans Genèse 10. Puis à quelque part, ça fait du bon sens. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis qu'on ait ce chapitre-là, ce texte-là. Ça ferait du sens que ça inclut vraiment tous les peuples, qu'on ait une bonne idée de où sont venus tous les peuples à partir des 3 fils de Noé. C'est que la semaine dernière, on avait déjà regardé les fils de Japhet, je ne recommencerai pas. Et on était rendu avec les fils de Cham, et on a arrêté à Nimrod. Et je sais que ça peut être un petit peu sec pour ceux qui détestaient la géographie ou des trucs comme ça, mais je trouvais ça quand même bien pour ceux qui êtes visuels, de juste vous donner un petit peu des idées de où chacun des fils s'est en allé. Puis comme on a commencé l'exercice la semaine dernière, c'est que souvent, non seulement l'archéologie nous a aidé à trouver un petit peu les déplacements des fils de Noé, mais aussi ses petits-fils, etc., mais aussi dans leur nom. Parce que le nom des descendants, on les retrouve souvent dans des noms de villes. Ça a été corroboré avec des fouilles archéologiques. On retrouve dans des noms de peuples. C'est qu'on est capable, même au niveau de l'étymologie, de retracer probablement c'est qui les ancêtres de certains peuples. C'est souvent des théories. Des fois, c'est clair. Des fois, c'est pas aussi clair. Des fois, c'est des théories, mais je le mentionne pareil. Et donc, on a fini la semaine dernière avec, on était rendu avec Cush. Donc, verset 6 du chapitre 10, on avait commencé avec les fils de Cham, puis le plus vieux qui est mentionné là, Cush, on avait parlé de ses fils à lui. Puis au verset 8, un des fils du plus vieux, de l'aîné de Sam, de Cham, ça nous est mentionné qu'il a engendré un de ses fils. Après avoir engendré le couche, il a engendré une trolley au verset 7. Après ça, il y a Nimrod qui arrive plus tard. Puis c'est mentionné que c'est lui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui a une version différente de la mienne qui utilise un autre terme que vaillant ou que chasseur? Ou... Ouais. C'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. OK, c'est ça. Moi, j'avais vaillant, donc puissant. C'est la même chose. Es-tu quelqu'un qui a d'autres choses que chasseur? Pour mettre les traductions, on prie quand même. Ça... Tu dis? OK. Juste pour terminer, les versets qui parlent de Nimrod, on arrive au verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assour. Il bâtit Ninive, la ville de Rehoboth, Cala et Rézen, la grande ville entre Ninive et Cala. On va voir ici, c'est comme si dans la table des nations, dans la généalogie, un petit arrêt, puis on nous parle de Nimrod en particulier parce qu'il y a eu une importance particulière de son temps. Puis lorsqu'on va arriver au chapitre 11, on va avoir plus de détails sur ce qui s'est passé. Puis c'est mentionné que c'est lui qui a bâti Babel. C'est mentionné que ça s'est passé dans la vallée de Shinéar. Et lorsqu'on va arriver au début du chapitre 11, Nimrod n'est pas clairement mentionné dans le chapitre 11, mais les gens se réunissent, puis ils vont s'installer dans la vallée de Shinéar, dans la même vallée, puis ils vont bâtir Babel, puis on fait le lien que Nimrod devait être derrière ça. Donc, comme j'ai parlé rapidement la semaine dernière, on a terminé avec ça. C'est intéressant, on a une mention, on a plus de détails sur cet homme-là parce qu'il a fait quelque chose qui était particulier, qui ne s'était pas fait jusqu'à maintenant encore. Et là, l'interprétation de ce qui est écrit dans le texte va dépendre de comment est-ce qu'on traduit le mot dans l'hébreu. Le mot chasseur ici, vaillant chasseur, dépendamment du contexte, le même mot peut être traduit différemment. Il pourrait être autant traduit ici comme tyran. OK? En anglais, tu pourrais facilement traduire tyrant ou hunter. C'est que ça va dépendre parce que le chasseur, ça peut être tout à fait neutre. C'est pas nécessairement négatif comme terme. Tandis que si on traduisait une tyran, ça, tyran, il y a vraiment une connotation négative à ça. T'sais. C'est quelqu'un qui domine sur les hommes. OK? Je crois que la. Si on reste dans le contexte de Genèse depuis le début, on a vu depuis le début c'était à quoi ressemble une descendance qui marche avec l'Éternel, puis c'est quoi une descendance qui marche pas avec l'Éternel à la manière du serpent. On a vu Genèse 3:15, la descendance du serpent, tout ça. On reste encore vraiment dans la même idée depuis le début. Puis là, on est dans la descendance de Cham. On sait Cham déjà l'histoire qui nous a été donnée avec son père Noé. On avait déjà vu son cœur qui se révélait. On a vu le cœur de son fils Canaan qui se révélait. Puis là, on a la descendance de Cham, puis on arrive à un dénommé Nimrod. Son nom veut dire révoltons-nous. Let us revolt. Révoltons-nous, c'est ça que le nom veut dire, là, si on le traduit. Là. C'est que, à quelque part, si on reste encore dans l'idée qu'on est dans une descendance qui va être particulièrement marquée par des gens qui ne vont pas marcher avec l'Éternel, puis là, t'as un homme qui appelle son fils par un nom qui suggère la rébellion. Je pense dans le contexte ici, surtout que c'est lui qui va bâtir Babel, puis on va voir que Dieu n'est pas nécessairement content de ça. Lorsque Dieu va venir voir ce qui se passe sur la terre, puis il va constater les hommes qui sont en train de bâtir une grande tour qui s'élève au ciel, ça ne fait pas son affaire à Dieu. Puis on va voir ça plus tard aussi, pourquoi Dieu avait un problème avec ça, puis pourquoi il a confondu les langues. Fait que je pense que la meilleure façon d'interpréter ici, c'est vraiment un homme qui est... Bonjour, pas de problème. Fait que, on a un homme qui, pour la première fois, ça a été un homme qui a dominé sur d'autres hommes. Et même les, c'est ça, c'est le targum, c'est ça le terme que je cherchais l'autre fois. Dans la tradition juive, ils ont des fois ils ont des paraphrases de l'Ancien Testament, puis qui interprètent un petit peu en même temps leur propre histoire. Puis le targum juif ont toujours interprété ce passage-là comme un Nimrod étant un chasseur d'hommes. C'est leur commentaire sur leur propre histoire, sur leur texte sacré. C'est qu'on a toujours vu ce texte-là comme un Nimrod justement qui était le premier à soumettre des hommes à sa volonté, mais d'une façon générale. Il y a vraiment la plupart des hommes de son temps. Puis on s'entend qu'il n'était pas nécessairement une grosse gang. Là. Nimrod est comme trois générations après les fils de Noé. C'est qu'en admettant que les gens vivent un certain nombre d'années, puis bon, puis on peut évaluer combien qu'il y aurait eu de monde à rendu à son époque sur la base du nombre d'enfants qui semblaient se faire. Puis en tout cas, c'est très approximatif, mais on peut parler de quelques milliers de personnes quand même. C'est peut-être jusqu'à 10 000, mais on n'est pas rendu à des millions là encore. C'est que tu peux avoir facilement quand même un ralliement des gens qui sont déjà là. C'est pas clair dans Genèse 11 que tous se sont pas nécessairement ralliés sous Nimrod. Ce serait surprenant que Seth puis sa famille proche aient suivi Nimrod. Même si c'est lui qui a écrit le texte de la table des nations, Seth marchait avec l'Éternel, ça aurait été surprenant qu'il embarque là-dedans, même que Noé aussi. C'est que c'est pas nécessairement tout le monde, mais il y a une bonne partie des gens. Certainement les descendants de Cham, beaucoup d'autres, beaucoup de descendants des autres fils se sont ralliés sous lui. Donc c'est quelqu'un qui a été réputé de son temps. C'est la première personne qu'on pouvait appeler un tyran, quelqu'un qui a dominé sur les autres, sur les hommes. Et on va y revenir un peu, là, je pourrais en parler plus déjà, mais on va y revenir lorsqu'on va parler de la tour de Babel. Parce qu'à quelque part, pourquoi est-ce que Dieu avait un problème avec le fait que les hommes étaient en train de s'agglomérer puis bâtir de quoi? Je vous lance déjà la piste de réflexion, là, mais certainement que ça allait avoir avec le fait que Dieu a commandé quelque chose aux fils de Noé lorsqu'ils sont sortis de l'arche. Il a dit, répandez-vous sur la terre, multipliez-vous, puis répandez-vous sur la surface de la terre. Puis il leur a donné, en sortant du déluge, il leur a donné aussi un rôle légitime d'établir des gouvernements parmi eux. T'sais, il disait si quelqu'un tue quelqu'un, mais sa vie va être aussi son sang va couler aussi. Donc Dieu a donné cette autorisation-là sous son autorité pour les hommes d'établir leur propre gouvernement civil sous l'autorité de Dieu. T'sais. Mais Dieu avait quand même dit de répandez-vous sur la terre. T'sais. Puis logiquement, les gens allaient se répandre, puis le noyau familial, Dieu a créé, institué la famille. Bon, les familles allaient se grouper entre eux autres, puis allaient commencer à peupler la terre. On va y revenir, mais il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là où est-ce que Nimrod se rebelle un petit peu au plan de Dieu. Puis ils vont s'installer puis bâtir une première grande ville. Dans le texte, quand il dit grande ville, là, il parle vraiment du complexe entier des villes qui étaient mentionnées. Là, à la fin, ça dit c'est là qu'est la grande ville entre Ninive et Cala. Il y a vraiment plusieurs villes. Puis même dans le texte, ça nous a mentionné qu'il est à l'origine de Assour. La ville de Assour était au nord de Babel. Puis Assour est comme la capitale des Assyriens, là, du peuple assyrien. Puis les Assyriens, ça a été une grande puissance aussi à l'époque. C'est que même Nimrod a conquis d'autres peuples autour, puis s'est établi vraiment un royaume. Un empire, si on veut. Fait qu'on va y revenir plus tard. Je vous ai mentionné rapidement la semaine dernière que même dans les villes mentionnées, on retrouve les villes dans d'autres documents ou dans des fouilles archéologiques, entre autres Érech, la ville d'Érech qui est mentionnée au verset 10. On la retrouve sous le nom de Uruk dans des documents puis dans des fouilles archéologiques. C'est une ville qui était 100 000 au sud de Babylone. Et ce qui est intéressant, vous êtes peut-être au courant de ça, mais dans les peuples anciens, on a des récits du déluge aussi, qui sont pas le récit du déluge de Noé, mais on a des récits de déluge même dans les histoires des peuples anciens. Puis c'est intéressant, ça démontre quelque part qu'il y a dû avoir un déluge. Il y a dû avoir un déluge et plusieurs peuples ont une histoire qui se ressemble. Les Babyloniens, eux, avaient une histoire, puis le héros au lieu d'être Noé, dans ce cas-là, c'était Gilgamesh. Puis lui-même était originaire de Érech, de Uruk, c'est sa ville natale. C'est que même sa ville-là est mentionnée dans le récit, dans leur propre récit du déluge. C'est qu'il y en a qui, souvent c'est dit que la Bible s'est inspirée de textes comme ça, tu sais. Mais dans le fond, c'est tout le temps une question de méthode de datation, là, mais c'est beaucoup plus le contraire. C'est de quoi? Il y a l'histoire qui est arrivée pour vrai, puis après ça, tu as des peuples qui ont. Dieu a permis que. Pour moi, Noé, entre autres, était celui qui a compilé sa propre histoire, puis par la suite, ça a été repris peut-être par Moïse, mais il y a d'autres peuples qui avaient ça dans leurs souvenirs. Il y a juste 8 personnes qui sont sorties de l'arche, qui ont gardé ce souvenir-là. Mais avec le temps, bon, c'est devenu une légende, c'est devenu une histoire avec des éléments différents. T'sais. Il y a quand même un souvenir de quelque chose qui s'est passé. Donc, juste deux mentions que j'ai dit rapidement la semaine dernière. Shinar, la ville, la vallée de Shinar, éventuellement c'est devenu Sumer. Puis Sumer, ça fait penser, pour ceux qui connaissaient un peu l'histoire ancienne, les Sumériens, ça a été un peuple super important aussi. Assur, la même chose, comme j'ai mentionné, ça a donné naissance au peuple des Assyriens. Évidemment, Babel a tout l'empire babylonien. C'est qu'initialement, l'empire babylonien puis assyrien, ça a été dominé par un descendant de Cham, Nimrod. Mais éventuellement, dans l'histoire, eux-mêmes ont été reconquis. C'est qu'il y a eu un amalgame aussi avec les descendants de Sem. C'est que ça a été éventuellement des peuples qui n'étaient pas juste des descendants de Cham, mais de Sem et de Cham. Mais à l'origine, c'était Cham. On arrive au verset maintenant 13-14. Donc, je vais sauter Nimrod. On n'en parlera pas plus. On va revenir au chapitre 11. Donc, on arrive au verset 13. Et moi-même, je vais me retrouver. On parle de Mitzrayim, verset 13. Donc là, faut revenir un petit peu. Là, on va parler du deuxième fils de Cham. On a parlé de Cush, puis de Cush, on s'est rendu jusqu'à Nimrod, deuxième génération après Cush. Là, on revient, si on veut, au verset 6, puis là, on va parler du deuxième fils de Cham, Mitzrayim. Donc, Mitzrayim engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Neftouim, les Patrouzim, les Kesluim, d'où sont sortis les Philistins. Donc, une petite mention ici de l'auteur, parce que les Philistins, c'était un peuple bien connu pour les Israélites. Il fait juste mentionner, c'est de là que viennent les Philistins et les Kaphtorim. Donc, on ne passera pas une éternité là-dessus parce que dans les 4 premiers peuples qui sont mentionnés, ils ne sont pas identifiés jusqu'à ce jour. On n'a pas une idée exactement d'où est-ce qu'ils ont vécu, etc. Peut-être, d'ailleurs, peut-être c'est de ces peuples-là qui auraient probablement migré vers le sud. Un peu plus vers le sud, donc ils se seraient éventuellement ramassés en Afrique, mais on n'a pas plus d'informations sur eux que ça. C'est une possibilité qu'en s'en allant vers le sud, Seth et les gens autour du Moyen-Orient auraient perdu un petit peu l'information sur ces peuples-là. C'est qu'on les a pas, on n'a rien pour vraiment les retrouver. Les Patrouzim ont demeuré à Patros, une des villes en Haute-Égypte. C'est qu'on retrouve l'origine des Patrouzim ici. Donc, j'avais l'Égypte ici, en Haute-Égypte. La ville de Patros qui doit son nom aux Patrouzim. Et finalement, les Kaphtorim qui sont mentionnés à la fin et qui sont liés aux Philistins, ils seraient originaires de l'île de Crète. Kaphtor, même le Kaphtor, c'est un autre nom pour l'île de Crète. Là, donc, l'île de Crète juste ici. Qui est en face d'Israël dans la mer Méditerranée. Donc, comme on dit depuis le début, là, il y a beaucoup, évidemment, d'établissements qui s'est fait dans cette région-là, parce que les monts Ararat sont dans ce coin-ci. C'est que c'est sûr que là, les gens se sont éparpillés à partir de là. Il y a beaucoup de peuples qui ont été autour de notre Turquie actuelle, autour de la mer Noire, qui est au nord de la Turquie. Là, ici, vous avez l'Arabie actuellement, l'Arabie. Puis là, ici, vous avez la Syrie, là, qu'on entend aux nouvelles, Israël, tout ça. Là, c'est que c'est autour ici. Verset 15. Oui. Comment? Oui, les noms sont... Oui, tout à fait. Oui, non, je comprends. Quelqu'un pourra compléter ma réponse, mais de ce que je comprends, c'est que... Déjà, il y a des variantes d'une version à l'autre parce que dépendamment des manuscrits qui ont été utilisés pour traduire la Bible, que ce soit, peu importe, là, il y avait des variantes déjà dans l'écriture du nom. C'est-à-dire que dépendamment des manuscrits utilisés dans l'original, il y a déjà des variantes. C'est qu'après ça, quand tu traduis en français, ben, ça amène d'autres variantes. L'autre chose, et je sais pas, c'est peut-être en hébreu, des fois, tu essaies de... Comment on dit ça? Translittérer, c'est comme ça que tu disais? Quand tu as un terme là, vraiment dans une autre langue, ça veut rien dire dans ta langue à toi. Là. C'est que tu essaies juste de lettre pour lettre prendre le mot puis de l'écrire dans ton alphabet à toi. Okay? Mais j'imagine que d'un traducteur à l'autre, il peut avoir des variantes quand ils font ça comme exercice. Parce que le mot de nom d'une ville, tu peux pas traduire chocolat, là, ça veut pas nécessairement dire. C'est que là, tu prends les mêmes lettres de l'hébreu puis tu essaies de translittérer, si on veut, dans le français. C'est que des fois, d'un traducteur à l'autre, il y a certaines variantes. Il y en a beaucoup qui vont utiliser le K, mais il y en a d'autres qui vont utiliser le CH pour le même son. Là. Ouais, y a de la phonétique là-dedans aussi, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, dépendamment du manuscrit, comment eux l'ont translittéré. Ouais. C'est que oui, il y a sûrement de la phonétique aussi. On veut essayer dans notre langue de reproduire le même son, c'est qu'on va l'écrire différemment. Oui, ouais, je comprends. C'est que je pense que c'est autour de ça, mais. Parce qu'à quelque part, on est en train de traduire vraiment des mots hébreux ici, là, c'est qui n'ont pas de signification pour nous. Là, c'est que ça, c'est tout un paquet de lettres ensemble. Là, c'est que... Verset 15. Verset 15, on arrive à Canaan. Donc, on vient de parler du deuxième fils de Cham, Mistraïm. Là, on a sauté Put, si je ne me trompe pas. Puis on tombe à Canaan, qui est le plus jeune des fils de Cham au verset 6. Donc, Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Yébousiens, les Amoréens, les Girgaziens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Êtes-vous édifié? Oui. Il dit, ensuite, les clans des Cananéens se disséminèrent. Les limites des Cananéens allèrent jusqu'à Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Canaan fut très prolifique. On voit qu'il y a quand même énormément de peuples qui descendent du quatrième fils de Cham. Donc, et là, il y a quelques petits points intéressants que je veux nommer à des fils de Canaan, parce que probablement la meilleure piste qu'on a pour l'origine des Asiatiques serait des descendants de Canaan. Sidon, qui est le premier mentionné de fils de Canaan, serait celui qui serait l'ancêtre des Phéniciens. Encore là, si vous connaissez un peu l'histoire, les Phéniciens, même dans le Liban actuel, le Liban qui est juste au nord d'Israël, au sud de la Syrie, il y a une ville qui porte son nom, la ville de Sidon. Les Phéniciens ont été reconnus dans l'histoire comme des habiles navigateurs, c'est des habiles commerçants aussi. C'est des peuples qui ont beaucoup contrôlé la mer Méditerranée, beaucoup navigué. Il y avait beaucoup de villes portuaires qui étaient des villes des Phéniciens parce qu'ils contrôlaient les ports. C'est qu'ils ont dominé les voies de navigation méditerranéenne. Donc ça, c'est pour Sidon le premier. Heth, deuxième fils de Canaan. Peut-être avez-vous une idée quel ancêtre de quel peuple Heth aurait pu être? Les Hittites. Heth, Hittites. Le peuple des Hittites revient ailleurs dans l'Ancien Testament. Là. Vous avez d'autres endroits où on parle des Hittites. Genèse 23, 10. Là, vous n'êtes pas obligé de tourner. Là. Je peux juste vous le mentionner rapidement. Là. 23, 10. Donc, on est toujours dans l'histoire d'Abraham. Puis là, ça nous mentionne que Éphron siégeait parmi les Hittites. Éphron, le Hittite, répondit à Abraham. C'est qu'en présence des Hittites. Bon, même Abraham a eu affaire avec des gens de ce peuple-là. C'est que les Hittites ont dominé un grand empire en Asie mineure. Donc, l'Asie mineure étant toute la région ici, là, nord-est de la Méditerranée. Donc, ils ont dominé un grand empire dans ce coin-là. Ils étaient présents en Canaan durant l'époque d'Abraham. Là, je viens juste de vous lire un verset. C'est que... Et même au temps de Salomon, dans 2 Chroniques 1-17, même au temps de Salomon, les Hittites étaient encore un peuple qui était actif. Vous allez tout avoir ça dans vos notes, je n'irai pas nécessairement voir Genèse 15, là, mais dans du temps d'Abraham a dû avoir encore certains contacts avec des Hittites. Là. C'est que... Les Hittites, c'est une des pistes qu'on aurait pour expliquer l'origine de tous les peuples asiatiques, là, de l'extrême-orient ici. C'est qu'il y a deux branches des fils de Canaan qui pourraient être liées, si on veut, aux Asiatiques. Le premier, c'est les Hittites, puis encore là, c'est dans l'étude du nom, dans l'étude étymologique. Après que les Hittites se seraient désintégrés en tant qu'empire, il y aurait peut-être possibilité que certains descendants des Hittites se soient en allés vers l'Est. Parce qu'on retrouve leur nom ailleurs dans plusieurs, dans des documents. Entre autres, le mot « Kita », Hittite, c'est H-I-T-T-I-T-E-S. Kita, c'est K-H-I-T-T-A-E. C'est que le mot Kita, on retrouve ça dans des monuments cunéiformes. Là. Fouillez-moi, là, c'est bon, des monuments, whatever, avec certaines écritures dessus qu'on a retrouvées vers l'Est ici. On a retrouvé la forme du mot Hittite, mais un peu plus sur la forme de Kita, je ne sais pas comment le prononcer. Éventuellement, Crité aurait pu être transformé en Cathay, C-A-T-H-A-Y. Cathay, c'était l'ancien nom qui était donné à la Chine mongole, en Asie centrale et en Europe. C'est qu'anciennement, du temps de Marco Polo, on appelait toute cette région-là la région la Cathay, la région de Cathay, C-A-T-H-A-Y. C'est peut-être une réminiscence même du terme Hittite, du nom de Het, OK? C'est une possibilité, là. Je vous dis pas que c'est coulant le béton. C'est que... Donc, Hittite, Kita et Cathay éventuellement, parce que c'était un nom qui était donné anciennement à toute cette région-là. Là. C'est que c'est peut-être pas la piste la plus claire, mais c'en est une pour expliquer toute l'origine des Asiatiques. C'est, éventuellement, il y a vraiment un groupe qui a dû se déplacer vers l'Est. Et une fois qu'ils étaient rendus dans ces régions-ci, il y en a qui ont été plus vers le sud en prenant tout le détroit de Malaisie. C'était même possible, avec le niveau de l'eau qui était plus bas, de pouvoir même circuler assez loin puis se rendre en Indonésie. Puis après ça, c'est une question de se fabriquer des bateaux hein, pour se rendre en Australie, puis les aborigènes d'Australie là, sont originaires de quelque part. C'est la même gang dont on avait déjà parlé souvent, qui aurait probablement passé ici, à l'est de la Russie, en Sibérie, passé le détroit de Bering, sur des langues de terre encore possiblement à l'époque de l'ère glaciaire, suivant le déluge, ou juste le fait qu'il y avait plus de glace, plus d'eau prise dans les pôles, donc les gens auraient pu traverser ici. C'est qu'il serait tout à l'origine des peuples amérindiens. Là. C'est qu'on sait les peuples d'Amérindiens jusqu'en Amérique du Sud, on s'entend. Puis il y a vraiment des... Il y a même certaines ressemblances au niveau... tous ces peuples-là ont des ressemblances, même physiques, à quelque part. Donc, certainement que la migration, ça serait faite, puis au niveau étymologique, au niveau archéologique, on a bien des idées. C'est pas juste ceux qui croient dans une création qui pensent ça aussi, même quand t'es évolutionniste, je l'ai déjà dit. Tu penses à quelque part que l'être humain a évolué à un endroit, ça n'a pas été des évolutions simultanées partout sur la planète, c'est qu'il a fallu qu'il migre pareil. Là, à partir de la place où ce que l'être humain est apparu, il a fallu qu'il migre, puis qu'il couvre la Terre au complet. Oui. Pourquoi nous, on a décidé... c'est juste que moi, j'utilise des termes qu'on utilise aujourd'hui pour décrire les peuples qui étaient ici au moment où, mettons, les Européens sont arrivés. Bon, les Amériques, je ne sais même pas Amérique, ça vient de où le terme Amérique, là, moi-même, je ne peux pas vous dire ça là, mais Amérindien, c'est parce qu'on fait référence à Amérique. Mais d'ailleurs, Inde, ils pensaient trouver l'Inde, c'est qu'Amer, ça veut dire quoi? Dans le fond, ils pensaient trouver l'Inde quand ils sont arrivés ici, c'est que déjà le terme indien a un rapport avec ça, mais Amer, je serais curieux pourquoi ils appellent ça les Amérindiens, l'Amérique. Ouais. Mais... Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire quoi le mot Amérique? Ah, peut-être. Non? C'est quoi le mot Amérique? C'est... OK, puis c'est quoi? C'est un explorateur? Un explorateur, ça me revient. OK, c'était le nom d'un explorateur, dans le fond. OK, ça me revient, ouais. Oui.
Donc, la terre, le cycle a sorti, ils ont marqué ça la terre. Il a dit au monde de se répandre. Mm-hmm. Au monde aussi, en sortant de l'arche, de se répandre.
Oui, tout à fait.
Ils sont orgueilleux, ils ont commencé, ils se sont répandus selon leur de Dieu.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Les hommes sont plus orgueilleux, ils sont plus fantastiques, loupés, ils vont le faire dans la
Oui. Oui, tout à fait.
Par la suite de la séparation, il y a eu des plaques tectoniques qui se sont formées. Il y en a 12 à 14, ça
fait 20.
Il y a eu l'Amérique qui s'empointe dans
l'autre. Oui, tout à fait. Je comprends.
Il y a eu des mouvements de terre, peut-être très forts, peut-être très silencieux, que Dieu seul le connaît, que l'oiseau du paradis se trouve en Amérique du Sud, la route CC, en Afrique. Pourquoi les kangourous, tous les massupiaux se trouvent en Australie?
Mm-hmm.
C'est parce que les animaux se sont éloignés.
Ça, c'est clair.
Là, quand elle a pensé,
terme, si vous ne connaissez pas ça, c'est pas être un bousquet de pigna, c'est pas être une déformation de la terre qui s'est formée par les temps. Regarde, ça semble être tout. Hein. Tu as des roches de la nouvelle écosse qui sont exactement les mêmes roches dans toute l'écosse et tout ça. Il y a eu quelque chose qui s'est formé très tranquillement.
Dans le fond, vous revenez sur quelque chose que j'ai. Mais vous avez. Non, mais c'est bon. Bien, dans le fond, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit de ça. Il y a quand même là-dedans, derrière ça, il y a une pensée, il y a deux idées. Je veux juste revenir là-dessus. Juste mentionner, là, c'est vraiment un rappel que je fais. Dans Genèse 1, quand il dit que les eaux se ramassent en un seul endroit, ça, je dois y revenir. Dans le texte, dans l'hébreu, ça ne peut pas dire nécessairement qu'il y avait un seul continent. Okay? Je sais qu'il y en a qui croient, mais dans l'hébreu, c'est vraiment clair quand il dit que l'amas des eaux s'appelle mer, c'est vraiment un terme pluriel, puis que l'amas de la terre s'appelle terre, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une seule mer. Il peut y avoir plusieurs océans primitifs. On parle avant le déluge, OK? C'est, à qu'est-ce que la terre ressemblait avant le déluge? On en a parlé beaucoup. C'est pas à ça qu'elle ressemblait, c'est sûr, OK? Maintenant, est-ce qu'automatiquement, il y avait un seul gros continent? Bibliquement, on ne peut pas défendre ça. On ne peut pas forcer ce qu'il y avait un seul continent. Même ce qui est clair, c'est qu'il y avait plusieurs mers, OK? Oui, tout à fait. Mais moi, je vous dis, je vais juste rappeler ce que moi, je vous ai enseigné. Comme je vous dis, ma conviction là-dessus, c'est que il n'y avait pas nécessairement un seul continent à cause dans l'hébreu, c'est pas ça que ça dit, OK? C'est que, ceci étant dit, ça ressemblait pas à ça, c'est clair. Peut-être que c'était quelque chose qui ressemblait plus à un seul continent avec des mers à l'intérieur, on le sait pas, c'est bien possible, là, OK? C'est clair que c'était pas comme ça, tu sais. C'est juste que l'idée du seul continent, la Pangée, le Pangaea, c'est pas nécessairement une idée qui n'est pas avec laquelle on peut pas se réconcilier. Ok, c'est une idée qui a été proposée par des géologues, puis c'est une idée que les évolutionnistes à laquelle adhèrent. Mais c'est pas un problème en soi. Le problème avec cette idée-là, c'est que ça prend des millions d'années, des milliards d'années avant que la Pangée se sépare puis devienne comme aujourd'hui. Ok, donc il y a pas la possibilité que ça a été fait rapidement. Les théories changent de nos jours. Les suggèrent peut-être que ça s'est fait plus vite le déplacement des continents. Maintenant, donc, tout ce que je veux revenir, c'est que c'est ça. Avant le déluge, la topographie, on l'a déjà mentionné, n'est pas pareil. C'est pas nécessairement un seul continent. Si on se bâtit sur l'expression en un seul endroit, c'est vraiment que l'eau a été séparée du sec. C'est vraiment que les deux matières, ce qui est liquide a été séparé de ce qui était sec et chacun était dans sa forme, en son propre endroit. Il n'y avait plus un mélange du sec et du liquide. Vous comprenez? C'est vraiment ça l'idée dans l'hébreu. Maintenant, je fais un retour des choses, c'est parce que lorsqu'il y a eu le déluge qui est négligé, le déluge est ignoré par les scientifiques de notre monde, le déluge a refaçonné la planète au complet. C'est clair qu'avec toute l'activité tectonique, donc les plaques tectoniques, c'est de l'activité de mouvement de la croûte terrestre, puis la croûte terrestre va bouger entre autres quand elle se fissure, quand elle se frotte, puis ça cause souvent du volcanisme en même temps, parce que qu'est-ce qui est pris par la pression en dessous, le magma va sortir en même temps, ça cause des mouvements de croûte terrestre. C'est clair qu'il y a eu ça durant l'année du déluge, puis c'est clair que la planète comme elle est là, c'est un résultat du déluge. Mais ça n'a pas été, c'était pas exactement comme ça. Quand Noé est sorti, c'était pas comme ça, là. Ça a tellement brassé ses œufs. C'est sûr que ça a dû brasser encore les années qui ont suivi, les décennies. Jusqu'à ce jour, il semblerait, puis moi je suis à l'aise avec ça, que même on y aurait encore un mouvement des plaques tectoniques qui est mesuré. C'est pas grand chose par année, OK? C'est pour ça qu'il y en a qui contestent ça, parce que là, on s'entend, si ça bouge de 2 cm par année, je ne sais pas comment tu prends ta mesure, mais il ne faut pas que tu te trompes. Mais moi, je suis à l'aise avec ça. Le point, c'est que on le sait qu'il y a eu une période glaciaire après le déluge. Fait que là, je fais un petit peu un recap, là, on s'entend sur ce qu'on a mentionné. Il y a eu une période glaciaire, on a des éléments qui montrent que certainement que la glace devait descendre beaucoup plus bas qu'elle l'est là aujourd'hui. Et ça fait du sens avec le récit du déluge aussi, parce que le déluge a occasionné des changements climatiques tellement subis, avec la perte de la couche d'eau, avec la projection de cendres volcaniques sur une échelle planétaire. Il y a eu des changements climatiques, il y a eu une formation, il y a eu une période glaciaire. C'est que pendant un temps, puis même ça, les évolutionnistes qui croient que ça s'est fait lentement, c'est clair que c'était passable dans des coins comme ici, parce que le niveau de l'eau, là, lorsqu'on regarde en dessous, il y a des endroits où, tu sais, si on baissait l'eau à grandeur de la planète, on verrait qu'il y a de la topographie dans le fond de l'océan, il y a des montagnes, il y a des vallées, tout ça. Mais il y a des places ici, carrément des langues de terre où ça peut être passable, soit si l'eau est plus basse, soit c'est passable parce que c'est de la glace. Tu peux passer sur de la glace, ou bien, parce que si les capotes polaires étaient plus grandes à l'époque, ça veut dire qu'il y avait moins d'eau dans les océans, était prise en forme de glace dans les capotes polaires. Ça veut dire que le niveau des océans devait être plus bas. C'est qu'à quelque part, il y avait des endroits sur la Terre où ça pouvait être possible de passer à pied ou passer facilement avec des petites embarcations. Entre autres, c'est un raccoin pour ça ici. Puis ici, avec, on a au niveau des détroits en Malaisie. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de passer de la Malaisie à l'Indonésie, à l'Australie, pour tout ce qui est marsupiaux ou arborigènes. Parce qu'à quelque part, les marsupiaux, ben, c'est une gang d'animaux ça a donné que géographiquement, ils se sont reproduits dans leur espèce, puis ça a donné les autres qui sont partis vers le sud-est. C'est un addon, on s'entend, en obéissant au commandement de Dieu de se répandre. Cette gang-là que ça a donné, que le petit les porte à l'extérieur d'eux, pour nous, on a donné un terme pour ça, les marsupiaux. D'ailleurs, il y en a quand même un marsupial en Amérique, c'est pas toute la gang. L'opossum, on a retrouvé l'opossum aussi. Ça se peut. C'est que si tu as un genre d'animal qui porte certaines caractéristiques, qui a été isolé du reste parce que lui, je ne sais pas, il s'est ramassé sur une île flottante ou il s'est ramassé dans le bateau d'une couple d'aborigènes, il s'est ramassé en Australie, mais c'est les seuls qui se sont ramassés là, bien, ils vont se reproduire et ils vont faire une population qui est particulière à eux, mais qu'on ne retrouvera pas ailleurs parce qu'ils ont été isolés géographiquement. Puis ça, c'est la même chose qu'un évolutionniste ou un créationniste va dire, là, pour prendre ces termes-là. Là. Ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que après le déluge, il y avait 8 personnes qui étaient juste ici. Ils n'étaient pas ailleurs. Okay? Puis ça, c'était pas exactement comme ça, parce que c'est clair que le niveau des océans n'était pas à la même hauteur. C'est clair que moi, je suis à l'aise avec l'idée des plaques tectoniques qu'il y a eu du mouvement durant le déluge et subséquemment au déluge. Mais le point, c'est qu'il a tout bien fallu que ce monde-là se ramasse à grandeur de la planète en marchant là, ou en faisant du bateau. C'est qu'ils sont partis de un point. Ça, c'est la même chose pour les animaux, la même chose. C'est pour ça aujourd'hui qu'on trouve des animaux super spécialisés dans un raccoin quelque part sur la planète. C'est juste qu'ils se sont ramassés là, puis particulièrement, je vous dirais, l'Australie, là, s'il y a de quoi sur la planète, ça fait du sens que dans des coins qui sont particulièrement reculé ou séparé du reste du monde, qu'on trouve des animaux un peu plus particuliers, parce que ça veut dire que plus rapidement, ils se sont isolés du reste. C'est-à-dire que si rapidement, tu en as qui se ramassent dans un endroit, puis mettons qu'après ça, le niveau de l'eau a monté, puis tout d'un coup, c'était plus possible de se ramasser en Australie aussi facilement que sa gang d'animaux-là se sont ramassés, ça veut dire qu'historiquement, les marsupiaux ont été vite coupés du reste du monde. C'est ça que la sélection naturelle fait. C'est qu'à un moment donné, si tu t'es isolé dans un petit bassin de population avec une génétique particulière, si ça s'est fait rapidement puis tu n'as plus de contact avec le reste du monde, c'est un océan qui te sépare, tu te spécifies, ça veut dire que tu te reproduis juste avec ta propre espèce ou ton même genre de gene pool, ton bagage génétique. C'est que oui, à quelque part, plus qu'on se ramasse dans des places isolées, et que tu es au sud, parce que ça a donné que c'est ramassé, ça a donné que ces animaux-là sont allés vers le sud. Mais attention, ils n'étaient pas sur le continent. Il n'y a pas eu d'autres choses après le déluge. Ils sont partis tous de l'arche. Après le déluge, il n'y avait pas des animaux à différentes places. Puis c'est juste qu'il a fallu qu'ils migrent. Tout ça ont migré après le déluge. Ça, je suis pas nécessairement d'accord. Ça, je comprends, c'est une position, mais je vais vous la dire tout de suite, cette position-là. Je viens à toi, Karine. Vas-y. Ouais.
Est-ce que c'est pas que
nous,
on croit que les marsupiaux,
il y en avait partout? La seule différence,
c'est parce qu'il y avait plus de prédateurs, ils ont été isolés. Le fait qu'en Australie, ils ont été isolés,
c'est une possibilité. Mais c'est pas que ça ramassé en
Australie qui a évolué selon les conditions.
Ben, c'est un petit. Mais attention, moi, je vais récapituler encore, OK? On sort de l'arche, OK? Tous les animaux sont dans l'arche. mais on s'entend, il n'y a pas 58 couples de girafes, il y en a un couple. C'est que si ce couple-là commence à se reproduire autour, ici, puis il s'en va éventuellement en Afrique, avec sa petite tribu de girafes, des girafes, il n'y en aura pas à travers le monde. Il va en avoir juste en Afrique parce qu'ils se sont ramassés là. Maintenant, il peut y avoir un couple d'animaux, l'ancêtre des chiens et des loups, qui sort de l'arche, qui se reproduit, mais il y en a qui s'en vont vers l'est, il y en a vers le nord, puis vers l'ouest. Puis à mesure que la progéniture de l'espèce chien s'en va, mais il va y avoir une différenciation. On en a parlé, là, parce que tu peux avoir tes enfants peuvent avoir des variables là, quand ils naissent. C'est que tu vas avoir du même ancêtre, tu vas avoir une variation, tu vas trouver des espèces, si on veut, chien et loup, en Sibérie, en Russie, en Europe, tu vas en trouver même dans les Amériques, parce qu'il y en a qui ont voyagé jusque-là. Mais ceci étant dit, c'est que il y en a qui vont s'être déplacés vite à un endroit, puis auront vite été coupés du reste, c'est que leur expansion puis leur sélection naturelle va se faire juste en Afrique, par exemple. Mais l'idée que M. Prévost amène, je le sais, elle vient de où? C'est parce que une des théories qu'il y a, c'est qu'on sort du déluge, mais que la planète, elle serait très différente de maintenant. Puis on arrive au chapitre 10, on n'est pas encore arrivé à ce verset-là, puis ça dit à un moment donné que c'est au jour de Péleg que la Terre fut divisée. S'il y en a qui pensent que cette allusion-là à la division de la Terre durant les jours de Péleg, Péleg étant un petit-fils de Sem, on parle de quatrième ou cinquième génération, qui aurait eu division du seul continent unique, la Pangée, à ce moment-là. Okay? Ça aurait été un événement catastrophique, physique, qui nous est juste mentionné dans ce verset-là, sous la forme de c'est à ce moment-là que la Terre fut divisée. Ça, c'est une théorie. Et c'est là, justement, que les animaux qui auraient été à certains endroits des jours de Péleg, lorsqu'il y a eu fracture, ils se sont ramassés isolés. C'est une théorie. Moi, personnellement, j'adhère pas à ça parce qu'on va y arriver. L'allusion au jour de Péleg, à mon avis, elle est à la confusion des langues à Babel. Et Péleg est de la même génération que Nimrod. Okay? Si on est les deux de la même génération, je crois que c'est vraiment une réminiscence, c'est une mention dans le fond de la division des peuples, de la division des langues à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'il y en a qui font la théorie des plaques tectoniques. La théorie des plaques tectoniques vient pas de. C'est pas une idée qui a été prise de la Bible à la base. Okay? C'est une idée qui vient de la géologie. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Il y a certaines harmonisations qui sont pas mauvaises selon moi. Il y en a qui voient que la mention, cette théorie-là de des plaques tectoniques, là, des morceaux de la croûte terrestre qui se sont séparés, on la retrouverait dans les jours de Péleg. Moi, je crois que si on est pour retrouver ça quelque part, c'est dans l'avènement du déluge. Pour moi, c'est le déluge et l'avènement catastrophique de Genèse 1 à 11. Puis il nous est mentionné en main détail. Là, t'sais. J'ai de la difficulté à m'imaginer qu'il y a eu un autre événement d'une aussi grande ampleur, puis qu'il nous soit à peine mentionné, sinon dans un verset. Puis comme je vous dis, on est dans un contexte de la tour de Babel, on va y revenir. Puis Péleg, le père de Péleg, Héber, est un contemporain de Nimrod. C'est que si Dieu a intervenu puis a confondu les temps, les langues du temps de Nimrod, imaginez-vous Héber en souvenir de cet événement-là, parce que ça, c'en est un événement planétaire. La confusion des langues, ça va affecter les hommes d'une façon universelle. On s'entend que c'est quelque chose de gros, là. Parce qu'à partir de ça, le monde ne va pas avoir le choix de s'éloigner les uns des autres, parce que je ne te comprends plus, là. Ça, je pars avec toi, puis je ne vais pas rester à côté de toi. C'est que nous, on va s'en aller. C'est qu'il y a vraiment un incitatif de la part de Dieu à ce que le monde se sont éloignés, puis on commençait à peupler la terre pour vrai parce qu'ils ne se comprenaient plus. Et là, on va y arriver, je suis en train de vous donner un peu la réflexion derrière ça, c'est que c'était pas dans l'intention de Dieu dès la sortie du déluge, c'était pas dans son intention que les gens s'agglomèrent, puis qu'ils se développent des systèmes ensemble, puis on s'entend que Nimrod, là, il s'est pas aggloméré sous une théocratie, là. Il a pas dit, hey, les gars, on va se mettre ensemble, puis on va adorer le seul vrai Dieu, là. C'est pas marqué clairement dans le texte, mais on peut assez fort s'imaginer, parce qu'on le sait que la plupart des religions païennes, la plupart du paganisme, l'astrologie, on retrouve au niveau des artefacts en archéologie, puis historiquement, on retrouve la plupart de ces choses-là chez les Babyloniens. On retrouve l'origine de la plupart des religions anciennes, puis des idées astrologiques, le système du zodiaque, on retrouve ça à Babel. Okay? C'est qu'on a certainement une bonne idée ici que Nimrod, avec ses suiveurs, ils n'ont pas juste établi une grande ville. C'était une grande ville sans Dieu, une grande ville sans l'Éternel, une grande ville avec leur propre Dieu. Là, on s'en va lire Romains 1 après. Là, dans le fond, je vais au-devant de moi-même. Là. Romains 1, c'est une belle description de ce que ça fait l'être humain lorsqu'il rejette le Créateur. Okay? Romains 1, bon, puis rendu fou dans ses pensées, il va commencer à adorer quoi après avoir rejeté le seul vrai créateur qui pourtant est manifeste dans la création? Il va lui-même se faire ses propres dieux à partir des quadrupèdes, des oiseaux et des reptiles. Et se vantant d'être sage, il est devenu fou. Mais je veux dire, les religions anciennes qui adorent la créature, qui adorent les étoiles, ces patentes-là, on retrouve ça jusque chez les Babyloniens. Fait que, pourquoi je t'ai rendu là, dans le fond, c'est que c'était justement pas dans le plan de Dieu de s'agglomérer de même. Puis en plus, c'était une agglomération qui était tout à fait à la manière de Caïn, à la manière de la descendance du serpent, faite sans Dieu. Je veux dire, c'est extraordinaire là, ce qu'ils ont fait. Autant que c'est extraordinaire ce qu'ont fait les descendants de Caïn lorsqu'on lit Genèse 4, tout ce qu'ils ont développé au niveau de la musique, la métallurgie, etc., etc. Ici, là, avant qu'ils se mettent à bâtir la tour de Babel, la gang... Ils ont dit, on va se faire une industrie de briques. Parce que là, on va le voir, les versets, il y a vraiment, technologiquement, on va faire des avancées, puis on va se bâtir de la brique à partir du feu, là. Je pense que c'était la brique cuite, OK? Ouais. Puis lorsqu'on fait des études en archéologie, tout ça, là, cette technique de faire de la brique-là, c'est assez innovateur et c'était particulier à Babel, à Babylone. C'est que même ça, là, ça suggère vraiment, là, c'est du monde qui s'était bien organisé ensemble. Puis ils ont tout développé, si tu veux, des usines pour produire de la brique. Puis éventuellement, la deuxième étape à ça, c'est bon, là, à cette heure qu'on est autonome, qu'on produit nos matières premières, puis tout, on va se construire une civilisation, là. On va se construire des villes qui sont réseautées ensemble, avec un gars qui règne tout ça, tu sais. On fait un empire avec un empereur. Puis, entre autres, dans la ville principale, on se bâtit une tour. Là, son intention de bâtir une tour de même, mais certainement qu'on pourrait s'imaginer qu'il y avait de quoi de religieux dans l'arrière de tout ça. De toute façon, Nimrod, on a des indices encore au niveau archéologique que l'empereur de l'ancienne Babylonie, ce serait lui-même dit Dieu, tu sais. Puis ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Le pharaon le faisait. Là. Dans des religions anciennes comme l'Égypte, on a vu que le pharaon lui-même il était déifié. Il était rendu comme Dieu. Il était un man-god. Là, c'est qu'on peut s'imaginer Nimrod éventuellement en arriver jusque-là. T'sais. C'est que, en tout cas, là, je suis au devant de moi-même. Là, on voit encore le travail de Satan en arrière de ça. Là, Satan était là dans le jardin d'Éden. On voit qu'il était là. Il était là lorsque Job a certainement été a vécu dans les générations qui ont suivi le déluge. Là. On a des bons indices de ça. J'y reviendrai. C'est que ça, on voit Satan actif. Certainement qu'il est actif aussi puis s'organiser encore que l'être humain se rebelle encore contre Dieu puis veille à être son propre Dieu. Même suggestion qu'elle a donnée à Ève, là, je veux dire, écoutez, Dieu, tu vraiment, tu sais, Dieu, tu vraiment dit, puis dans le fond, Dieu veut se garder une connaissance à lui, puis tu sais, vous autres, vous êtes capables d'être vos propres dieux, dans le fond, c'est un peu ça l'idée, vous pouvez mener votre vie comme vous voulez. C'est encore, tu sais, cette idée-là de le père de Nimrod, là, je ne me rappelle plus de son nom, dans ce cas-ci, c'est Couche. Je veux dire, toute cette idée-là de vouloir éduquer son fils puis en faire un chasseur d'hommes, là, un tyran, là, tu sais, quelqu'un qui va s'imposer. Il y a toute une rébellion dans le cœur du père aussi, à quelque part, c'est de dire, regarde, je veux pas être soumis au Créateur, je veux vivre ma vie sans lui, tu sais. Puis on va s'organiser, nous-mêmes, on est capables, les hommes, de s'organiser, tu sais. C'est qu'on retrouve, mais cette pensée-là, je dis pas que c'est automatiquement Satan qui s'en vient puis qui susurre ça à l'oreille de Couche, mais c'est tout à fait la pensée satanique, c'est tout à fait l'attitude de Satan. C'est son péché à lui, c'est ça qu'il a suggéré à Ève, et c'est ça que dans l'histoire, tu sais, Satan, sa force, c'est pas d'apparaître à tout le monde puis adorer moi, puis là, tout le monde se prosterne devant Satan, là. C'est de faire croire des mensonges, puis ultimement, les gens ont adoré des démons à l'époque, comme il y en a encore aujourd'hui qui le font, c'est derrière les idoles et tout ça. Mais c'est toujours d'être déguisé, d'être quelqu'un qui trompe, puis ultimement, les gens se rébellant contre Dieu, ils deviennent des enfants du diable. En fond, ils sont soumis à celui qui est le premier rebelle. Là, je suis allé vraiment devant de moi-même, mais. Donc c'est bien, j'ai pas en passant, j'ai vraiment pas peur de vous amener des idées comme ça, monsieur Prévost, l'idée qu'amène, puis ça me rappelait aussi que vraiment il y a une théorie basée sur Peleg. Moi évidemment, je vous présente ce que moi je crois qui est le plus sensé avec l'interprétation des écritures, mais je suis à l'aise avec ça, vous avez d'autres idées. Je serais moins à l'aise si quelqu'un ici me disait qu'il pense que Genèse 1 c'est poétique puis que ça peut être interprété comme étant de l'évolution théiste. Je suis vraiment contre ça. Pour moi, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Je me gênerais pas. Mais des trucs comme ça, pour moi, c'est plus secondaire, là, tu sais. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. 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 C'est la... C'est ça. Puis c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. C'est pour ça que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est pour ça que dans le cours, la façon que j'amène le cours, j'ai pas amené le cours sur la façon création versus évolution. Ça m'intéresse plus ou moins. J'ai vraiment amené le cours sur la façon. On va étudier, on va essayer de faire une étude suivie de ce que Genèse dit, mais verset par verset. C'est pour ça que ça a été long, le chapitre 1 de Genèse et le chapitre 2, ça a été long, là, parce que je voulais vraiment que toutes les idées qu'on sorte, ça soit parce qu'on s'en va dans le texte original, puis mot pour mot, on voit qu'est-ce qu'on peut sortir du texte. Pas quel système de pensée on peut, par lequel on peut être influencé, mais on veut que le texte influence notre système de pensée. C'est que c'était ça, c'est pour ça que c'est l'exercice. C'est dans ce temps-là, ça fait en sorte que j'essaye d'être moins celui qui amène mes idées, mais c'est de vous amener tout le temps le texte. C'est sûr que je peux pas tout le temps faire l'exercice. Moi-même, je le fais pas, je fais confiance à des gens, là, quand je lis des commentaires. Ben oui, tout à fait, mais je pourrais dire des niaiseries, là, j'étais imparfait, là. Ouais. Mais pour revenir à l'idée, on va y arriver à Peleg, on en reparlera, mais je crois vraiment que c'est le déluge qui a fait qu'est-ce qu'il y avait à faire au niveau physique sur la planète. Là, je ne sais pas pourquoi on parlait tout de ça, mais whatever. C'est bien, c'est très bien, je trouve ça bien, comme ça on brasse les idées. On revient à Canaan. OK. Dans le fond, on parlait juste, c'est ça, tout ça a parti du fait parce qu'on est, tu sais, le gros de l'histoire là, humaine, OK, parce que le gros de l'histoire qui nous est rapporté, là, qu'on a des archives, là, puis même l'histoire biblique, là, l'histoire biblique chez le Nouveau Testament, ça se passe ici, OK. Puis après ça, avec Paul qui s'en va évangéliser les régions environnantes, il va aller évangéliser ce que les descendants de Japhet en grande partie, là, toute, tu sais, l'Europe ici, le tour de la Méditerranée. Puis après ça, là, tu sais, les deux millénaires qui viennent de passer, là, il y a beaucoup, ben les deux, excusez, je vais trop loin, mais tu sais, un millénaire et demi, il y a beaucoup de choses qui s'est passé ici. Mais pendant que ça se passait là, il y avait du stock qui se passait ailleurs. L'Afrique a eu des empires, des grands empires. T'sais, l'Afrique, c'était pas loin. Là, ceux qui ont sorti de l'Arche ont vite colonisé ces régions-ci. Il y a eu du stock qui s'est passé là. Ça nous est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup autant d'informations que qu'est-ce qui se passait en Europe. Mais tout en Asie, là, ça n'a pas été long qu'il y a eu toute une culture chinoise qui s'est établie ici. Là. Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Eux ont quand même des écrits, des archives de leur propre histoire. Mais plus loin que ça, ça a pris du temps avant qu'il y ait du monde qui se ramasse ici, les aborigènes là, puis qu'il y ait du monde qui se ramasse en Amérique du Nord, puis en Amérique du Sud. C'est que leur histoire est plus récente à eux. Puis il faut quand même expliquer comment ils sont arrivés là, puis ils sont sortis du même bateau. Là. Ok, c'était un des descendants de Sem, Cham ou Japhet. Puis ils sont rendus là. Tu sais, c'est que l'Inca qui habite ou le Maya, je sais pas trop, là, qui habite au Chili ici, là, c'est une méchante run. Tu sais, bon, peut-être qu'il s'est bâti un bateau lui, puis qu'il a fait ça. Là, mais l'indice qu'on a plus, c'est ça vrai, ça aurait été des migrations terrestres. C'est possible qu'il y en ait dans la gang qui sont partis en bateau. Parce que si Noé a été capable de construire un arche, il a peut-être dit, puis ses fils ont comme vécu les 100 premières années de leur vie, grosso modo, à construire un bateau. Ils ont peut-être une petite idée de comment faire ça. Après, ils peuvent en parler à leurs fils, à eux autres. Puis la navigation, c'était pas, c'était quelque chose que tu as déjà connu, hein, après tout. T'sais. C'est qu'il n'y a pas d'impossibilité qu'il y ait eu des traversées des océans, même anciennement, là, quand j'étais allé à Hawaï, les premiers colonisateurs d'Hawaï ne sont pas arrivés là en bateau moteur. Là, c'est des Polynésiens de je ne sais pas où, dans ces coins-ci, avec des grandes pirogues, puis il fallait soit courageux, Motadi, pour t'en aller dans le vide comme ça, mais il y en a qui ont été capables. C'est que rien n'empêche qu'à l'époque aussi, il y a des êtres humains qui ont colonisé des endroits reculés parce qu'ils sont arrivés par voie navigable. On parle de là longtemps. Là, il y a puis les animaux, il y en a bien. Là, je veux les oiseaux, les premiers, c'est pas trop, trop difficile pour eux de se rendre sur une île. Puis il y a bien des animaux qui sont capables de faire des bons bouts à la nage aussi. Sans compter qu'après le déluge, on s'entend, là, c'est la fin d'une catastrophe. Okay? C'est que t'as pas le lever du soleil sur l'océan, puis il n'y a rien sur l'océan. Il devait y avoir de la cochonnerie partout qui traînait. Là. Puis si c'était des bouts de toutes sortes de patentes qui devaient flotter un peu partout sur l'eau, on peut s'imaginer que ça rend les déplacements aussi plus faciles pour certaines espèces d'animaux, que ce soit des insectes ou autres qui sont carrément cachés dans de la terre ou dans des résidus quelconques, OK, c'est qu'il y avait possibilité. Là, je reviens en arrière un peu. Je veux au moins terminer avec les fils de Cham. Donc, on est rendu au verset 16 à 18. Donc, les autres 9 fils de Canaan, excusez-moi, on est rendu dans les fils de Canaan, là, il y a toute une tralée de peuples au verset 17-18 qu'on ne va pas relire. Ces 9 fils-là de Canaan sont les ancêtres de toutes les tribus cananéennes qui habitaient la terre promise. Lorsque les Israélites vont arriver en terre promise, il y a plein de peuples d'établis, puis on peut tous retrouver leur origine à partir de Canaan. Entre autres de ces fils-là qui ont donné naissance à tous ces peuples-là. Donc, tous les peuples qui sont localisés autour du Liban puis de la Syrie actuelle. entre autres, il est mentionné les Jébusiens là-dedans. Les Jébusiens furent les premiers habitants de Jérusalem. Jérusalem, c'est une vieille ville, puis probablement même un vieux nom de Jérusalem, c'est Jébus, si je ne me trompe pas. Mais c'est les Jébusiens, ça aurait été les premiers à bâtir cette ville-là qui a évolué avec le temps, puis son nom a évolué aussi. Et ce que je voulais mentionner en terminant, qui est un point très intriguant quand même, c'est un des descendants de Canaan sont appelés les Siniens, au verset 17. Okay? Et les Siniens, donc peut-être que le fils s'appelait Sin, whatever, les Siniens, c'est l'autre piste qu'on a la plus probable pour expliquer l'origine des peuples asiatiques, éventuellement des peuples amérindiens puis des peuples aborigènes de toute, si on veut, la Polynésie de tout l'Est ici. Là. C'est que déjà, ceux qui connaissaient un peu en étymologie, dans le mot sinien, ça vous dit-tu quelque chose par rapport aux Chinois, là, au peuple chinois? Le terme sin ou sino, c'est vraiment un terme qui est utilisé pour définir les peuples asiatiques. C'est la culture sino quelque chose, ben c'est chinois sino, S-I-N, vous voyez. C'est que le préfixe S-I-N est même utilisé jusqu'à nos jours en français pour décrire. Il y a plusieurs mots qui décrivent quelque chose relatif aux Asiatiques, relatif plus précisément aux Chinois. Donc, les Siniens, c'est un peuple intriguant, probablement qui aurait été important dans le passé, dans le coin du Moyen-Orient, là, Israël, tout ça, parce qu'on retrouve ce préfixe-là dans beaucoup de termes du Moyen-Orient. Quelle montagne qui a un nom qui ressemble à ça, le mont Sinaï. Comprenez qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé de même à un moment donné. Là, nous autres, on l'a là, mais quelqu'un l'a appelé de même. C'est tout le temps en rapport avec quelque chose que tu connais. T'sais. C'est que s'il y a un peuple important qui habitait là, ou s'il y a un fils important qui a donné naissance à un peuple important qui s'appelait Sin, il a appelé le mont Sinaï. On a Sinim aussi qui revient dans ces coins-là. On a un des dieux les plus importants des Assyriens. Le peuple assyrien, à l'époque, un peuple important, s'appelait Sin, un des dieux les plus importants. On a retrouvé son nom dans les archives. C'est que même ça a été assez important comme peuple, les Siniens, pour que même des dieux portent des noms qui ressemblent au nom donné aux Siniens. Et donc, la piste la plus probable dans Genèse 10 pour l'origine des peuples asiatiques, ce serait vraiment de ça, là, les Siniens qui seraient parlés d'un groupe des descendants de Cham qui seraient finalement allés vers l'Est, puis on retrouve leur nom par la suite, Sinim. Siné, S-I-N-A-E, c'est le nom qui est donné au peuple de l'ancienne de l'Extrême-Orient dans l'histoire séculière ancienne. Donc, dans l'histoire ancienne, on appelait les gens de l'Extrême-Orient les peuples de Siné, S-I-N-A-E. Éventuellement, le préfixe sino nous est gardé jusqu'à aujourd'hui en référence aux Chinois, comme je viens de mentionner. Là, j'ai Ésaïe 49, 12. Je vais vous lire ça aussi en terminant. Ésaïe 49, 12. Juste de même, Isaïe est en train de faire des prophéties concernant Israël, mais souvent quand il prophétise, il parle aussi des peuples qui environnent Israël, parce que Dieu a un plan, puis Dieu connaît ces peuples-là, évidemment. Il dit au verset 12, « Les voici, ils viennent de loin. Les voici les uns du nord et de l'ouest, les autres du pays de Sinim. » Okay? Ça aurait peut-être une allusion ici. Bon, il y en a qui viennent du nord, il y en a qui viennent de l'ouest, il y en a d'autres qui viennent du pays de Sinim. Peut-être une allusion que le pays de Sinim, c'est l'extrême est. Okay? Je ne dis pas que c'est marqué mot pour mot, mais il y a une bonne idée ici. Ça vient juste compléter la théorie que les Siniens, ou le fils Sin, le fils de Canaan, seraient à l'origine d'une gang ça serait parti vers l'est, puis éventuellement aurait donné naissance à tous les peuples asiatiques. Il y a ça, ou bien, on a, comme on l'a dit à l'heure, peut-être les Hittites aussi. Il y aurait peut-être lorsque l'empire Hittite s'est détérioré, il y aurait peut-être un restant qui se serait aussi en aller vers l'est. Bon, c'était pas exclusif. Là. Si tu voulais aller vers l'est, il n'y a pas de barrière. Là. Tu peux y aller. C'est que, il y a peut-être plus qu'une gang qui sont allés par là-bas. Mais éventuellement, c'était pas super nice non plus. Là. Je fais quand même le commentaire que c'est bien beau de s'en aller vers l'est, mais ceux qui ont... Si c'est le cas, il y a qui ont traversé ici, là, puis qui sont pas allés par bateau, mettons, mais qui ont traversé ici, c'est pas une petite marche le fun, tu sais. Puis les conditions sont assez adverses encore aujourd'hui en Sibérie puis dans le Nord. Mais il y a des peuples qui habitent dans le Nord, puis ça fait longtemps qu'ils habitent là, tu sais, les peuples, les nous, tout ça. C'est qu'il y a quand même du monde qui sont allés là. Mais j'imagine que c'est pas le party. C'est pas parce que tu vas là puis tu dis à tes chums, hey, venez, c'est le fun. C'est que c'est normal aussi qu'il n'y ait pas énormément eu de développement humain par là-bas, parce que déjà sur plusieurs générations, déjà de faire la migration, ça va être assez rough. Puis si tu faisais à quelque part, c'est parce que tu cherchais peut-être des coins meilleurs pour élever ta famille ou pour whatever, pour que ta gang à toi, ben vous soyez bien. C'est que tu as toujours l'espoir. T'sais. Je pense que c'est humain de chercher. OK, on est trop pogné ici, on va chercher une place encore, on va faire mieux vivre. Puis on va la trouver à un moment donné, cette place-là. Fait qu'une fois qu'ils ont passé la capote polaire, ils sont arrivés au Canada, ils l'ont trouvé à la place. C'était l'affaire. Donc, je mentionnais ça parce que je pense à quelque part, ça fait du sens dans l'inspiration divine qu'on aille pas mal l'origine de tous les peuples dans le chapitre 10. Pour ça, je voulais mentionner les deux théories ici. Et je veux juste mentionner une dernière affaire, on finit avec ça. Verset 20. Verset 18. OK, c'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant au verset 18? À la fin d'avoir mentionné tous les fils de Canaan puis les peuples issus de lui, c'est marqué « Ensuite, les clans des Cananéens se disséminèrent. » Moi, j'ai dans d'autres versions, ça va dire « Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. » C'est la seule famille, c'est le seul nom qui est, descendant qui est mentionné particulièrement qu'eux se sont dispersés. Okay? Je trouve encore ici, on a probablement une allusion au fait que eux, ces familles-là particulièrement, se sont plus dispersées que le reste des descendants de Japhet et de Sem. Okay? Oui, c'est ça, le reste de Japhet et de Sem. Donc, il y a peut-être une allusion aussi au fait que ces descendants-là de Cham, particulièrement, eux se sont dispersés. Ce serait peut-être une allusion au fait qu'eux autres, ils ont vraiment pris le large, là, puis ils ont été ailleurs. Donc, c'est la seule place qu'on a cette allusion-là dans le texte. Donc, les Hittites seraient partis au nord en Asie mineure, puis les Syriens vers l'est en Asie, et tu mets en Amérique, comme je viens de mentionner. Et encore là, on finit avec le verset 20. Verset 20 qui dit « Ce sont là les fils de Cham, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. » Encore un indicatif que la table des nations a été écrite finalement et compilée après la confusion des langues. Parce qu'il y avait déjà eu la division des langues et c'est là 7 est en train de dire « Voilà comment que les peuples se sont établis selon leur langue. » Et quand tu as une langue, ben, tu te regroupes avec des familles qui parlent la même langue. Éventuellement, tu formes un peuple, tu formes une nation. Okay? Donc, on a encore la même mention. Donc, je termine avec ça. La semaine prochaine, on commencera avec les jours de Péleg, justement. On va être rendu à Péleg la semaine prochaine.